Bonjour, chers auditeurs. Vous êtes actuellement à l'écoute du tout dernier épisode de la saison du podcast du CSH. Mon nom est Heidi et je serai votre animatrice pour cette édition du jeudi 19 mai. De plus, j'ai la chance d'être bien entourée. Aujourd'hui, car je suis en compagnie de quatre talentueuses collègues, Florence Gendron-Julien, Katrina Marie et Marie-Claude Desjardins. Bonjour, vous allez bien?
Oui.
Oui, bonjour.
Donc, je tiens à vous remercier pour votre présence. Probablement que la majorité de nos auditeurs connaissent déjà la thématique que nous apprêtons à aborder. Mais la plupart ne réalisent pas la réelle ampleur du phénomène. En fait, nous parlerons de la consommation. Pas dans le sens de la consommation de substances, mais dans le sens de la société de consommation. Il faut dire que la dite consommation n'est pas seulement un mode de société, c'est la société elle-même. Pensez à quand vous vous levez le matin. Vous utilisez votre cellulaire ou votre réveil matin que vous avez acheté. Vous déjeunez en consommant la nourriture que vous avez achetée. Vous vous lavez avec le savon et le shampoing que vous avez acheté. Vous utilisez les vêtements que vous avez achetés et ainsi de suite. Donc, nous consommons littéralement du matin au soir les produits issus de notre consommation quotidienne. Nous avons donc largement dépassé le statut de société de consommation. Nous sommes devenus, nous, individus des produits de consommation. Au cours de l'épisode radio, nous aborderons divers aspects de la consommation, touchant différentes disciplines, telles la politique, la géographie, l'économie, l'histoire, la psychologie et la sociologie. L'autre jour, je parlais avec une de mes connaissances qui travaille dans un magasin grande surface, et j'ai fait une découverte qui m'a fait tomber en bas de ma chaise. Nous regardions tranquillement la télévision, quand j'ai entendu s'exclamer « c'est ça » de manière beaucoup trop dynamique. J'ai alors demandé ce qui se passait. Il m'a alors répondu « c'est LA fameuse publicité » dont il me parlait justement. Mais qui ça? Il m'a répondu « oh, un client ». C'est alors qu'il m'explique qu'environ 30 à 40% des clients qui arrivaient au magasin, c'était à la suite d'avoir vu une publicité à la télévision. En arrivant, il disait « je veux, vous savez, le produit là à la télé, là, tu sais, le truc là de la publicité. » Comme si la personne qui travaillait au magasin faisait juste ça, regarder les publicités qui passent à la télé. Donc c'est là qu'on peut voir que la personne qui se présente juste le lendemain de la publicité qui a passé, toute l'influence qu'ils peuvent avoir sur les gens. C'est à se demander quelles sont les stratégies marketing qu'ils peuvent utiliser. Donc, Katrina, je crois que tu avais justement étudié la question des stratégies marketing.
Oui, j'avais parlé de la stratégie marketing, surtout des géants mondiaux, comment ils faisaient pour contacter les personnes comme nous, les consommateurs. Puis, au travers de multiples études, j'avais compris que les entreprises utilisaient diverses stratégies, tout dépendant du groupe d'âge, mais surtout du groupe de citoyens qu'ils voulaient viser. Donc, si on voulait viser des adolescents, on visait plutôt une vie avec beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'événements, d'aventures. Tandis que si on visait plus des personnes un peu plus âgées, on visait surtout la tranquillité, la paix, la santé, puis une certaine longévité. Cependant, j'ai remarqué aussi que malgré la grande consommation des gens, la plupart du temps, c'était vraiment dû aux stratégies marketing qui les influençaient. C'était pas nécessairement un besoin intérieur, mais plus un fait de dire « Regardez, moi, j'ai qu'est-ce qu'on a vu à la télévision, j'ai qu'est-ce qu'on a publié sur les grands panneaux géants des centres. » Il y a plusieurs façons d'arriver à atteindre une stratégie marketing très efficace. Il y a trois étapes qui est vraiment très importante, c'est surtout de viser le bon groupe de consommateurs. Donc, on veut faire ça de viser vraiment la personne qui va consommer notre produit en plus grande majorité. Donc, si on prend comme par exemple Red Bull va viser surtout les personnes plus jeunes qui veulent vraiment avoir un mode de vie plus envoûtant et excitant. Surtout grâce à leur slogan, Red Bull donne des ailes. Ça crée une certaine illusion de pouvoir, d'invincibilité, de force, de courage, d'intelligence, mais surtout d'énergie. Ça crée une rareté puis une curiosité que surtout les jeunes vont vouloir aller chercher. Moi, je consomme ça, donc je suis une personne très intéressante, je suis invincible, je suis courageux. En gros, c'est un mode de vie qui les intéressait vraiment puis qui voulaient vraiment pouvoir acquérir en achetant ce produit. D'autres façons qui sont utilisées, c'est surtout par la publicité, comme tu as décrit plus tôt, mais pas juste la publicité à la télévision, mais aussi la publicité comme des panneaux, tu sais, comme dans les centres-villes, on se promène et on voit beaucoup sur les immeubles, les écrans géants, ça fonctionne presque plus que les publicités, parce que les gens les voient sans même s'en rendre compte. Ça va tout le temps rester comme dans leur cerveau, puis quand ils vont voir le produit, ils vont vraiment penser à cette publicité-là. Comme par exemple, Samsung, qui est la compagnie de téléphone, mais elle fait beaucoup de choses. Elle a déboursé 13,4 milliards de dollars en 2013 afin de promouvoir ses produits dans le monde entier. Ça s'est vraiment ressenti parce que elle a vendu 86,5 millions de téléphones de plus depuis qu'elle a investi autant d'argent. Ça a vraiment augmenté ses ventes de plus de 38,9%. ce qui est vraiment un impact majeur, puis qu'on réalise vraiment l'importance de investir dans les publicités. T'sais, oui, on dépense de l'argent, mais l'argent va vraiment revenir 3 fois plus.
C'est ça, Katrina, en fait, là, on parlait justement qu'il y a la possibilité des publicités à la télévision, sur la route, mais je sais pas, mais moi, quand j'ouvre mon ordinateur, souvent, déjà sur Facebook, on a plein de publicités. Qu'est-ce qu'il y en a des publicités ou des stratégies marketing, justement, à la publicité relative à Internet?
De plus en plus, on voit les publicités sur Internet, les médias sociaux surtout, autant sur Facebook que sur Instagram que sur YouTube, qui peut sembler un média social un peu plus vague. Sur Facebook, c'est surtout des pop-up. Donc, on va voir le journal ou le feed. Puis, sur le côté, on va voir surtout des annonces de publicité. Donc, surtout pour les femmes, là, des robes à 12$ ou des souliers à 3$. C'est des grandes ventes. Souvent, c'est pas des compagnies très fiables, mais c'est quand même une publicité qui reste, qui nous marque. Puis là, on voit ça, puis on est « Ah oui, oui, on devrait aller voir le site. » Par exemple, les seuls qui fonctionnent le mieux, c'est sur Instagram, parce que c'est beaucoup plus subtil que c'est une publicité. Les gens savent de plus en plus que les publicités sont là pour nous convaincre, puis nous permettre comme nous favoriser l'achat. Par contre, sur Instagram ou sur YouTube, ça va être la publicité très underground. Ça va être plus des célébrités qui vont être avec un produit, ou on va vanter sur YouTube, comme dans les Beauty Gurus, ils vont vanter un peu... que si ce produit-là, il est fantastique, ils l'ont vraiment adoré, mais qu'en réalité, c'est juste une publicité qui est derrière, sont payés par cette compagnie-là pour promouvoir ce produit-là. Puis les gens, ils ont confiance en ces personnes-là, ces célébrités-là, ces YouTubers, donc ils vont finir par acheter le produit.
Ben c'est parfait, mais merci beaucoup, Katrina. Il y a environ 1 semaine, j'étais à l'épicerie, il y avait, vous savez, la première caisse proche de la sortie. Le genre de caisse à moins de 2 articles, il y avait personne. Alors je me dirais vers celle-ci, quand une dame me double brusquement, politiquement, je signifie que j'étais là en premier, puis scandale, elle se met à s'énerver mentionnant qu'elle avait 11 articles, moi j'avais 13 articles. Vous savez, les bananes, ça se vend en grappes, ça peut être 3 bananes, 4 bananes, 5 bananes, peu importe. Mais moi, j'avais 2 grappes de 3 bananes, donc là, on s'est destiné à savoir si j'avais 12 ou 13 articles. Donc finalement, je la laisse passer, puis erreur de ma vie, la madame, elle arrive avec sa pile de coupons, puis il y a un des coupons qui voulait pas passer à la caisse. Donc finalement, je suis restée là 15 minutes. En fait, ça m'a fait vraiment réaliser que le couponing, c'est quelque chose qui est assez présent. Puis, nous sommes en compagnie de Marc-Claude, qui est là aujourd'hui pour nous en parler.
Oui, effectivement. Donc, le couponing, comme on le connaît, c'est un rabais, un 50% ou un 2-pour-1 sur un produit que normalement on paierait au prix régulier. Tel qu'on le connaît, dans le fond, le but premier du couponing, c'est d'économiser de l'argent. Bien sûr, dans les grandes émissions américaines que nous voyons à la télévision, on constate que les gens ressortent de l'épicerie avec des épiceries qui leur ont rien coûté, même que des fois, ils retournent avec de l'argent. Par contre, la réalité, c'est que le but premier, c'est vraiment d'économiser de l'argent sur une épicerie qu'on fait quotidiennement. Ce qui est le fun avec le couponing, par exemple, c'est que c'est une stratégie qui s'adresse vraiment à tout le monde. Donc, on peut constater chez les familles en difficulté que les gens vont beaucoup utiliser le coupon. On voit aussi des mères monoparentales qui vont utiliser les coupons afin d'obtenir des rabais et que leur épicerie leur coûte moins cher. Sinon, on voit des étudiants endettés gravement à l'université qui ont besoin d'un peu d'argent pour payer leurs études. Donc, ils vont se relier sur les coupons. Également, on voit aussi les gens qui font du couponing pour en faire un passe-temps ou simplement pour une passion. En ce moment, les coupons que nous voyons, ce sont des coupons qui sont en version papier. On les voit également de façon électronique, donc on imprime à la maison. Et sinon, c'est dans la circulaire ou qu'on reçoit par la poste. Ce qu'il faut faire attention avec le couponing, c'est des petites mises en garde, donc il faut faire attention aux dates d'expiration. On voit souvent sur les coupons, sur certains coupons, bien sûr, il n'y a aucune date d'expiration, donc on peut l'utiliser à vie, une seule fois par exemple. Mais sur beaucoup de coupons, il y a une date d'expiration. Généralement, ça va de 1 semaine à 1 mois. Également, il faut faire attention aux politiques de jumelage de coupons. Donc, sur certains coupons, on peut jumeler un 50% avec un rabais. Mais sur d'autres, c'est seulement l'application du coupon sur le produit. Donc, à la caisse, des fois, on a des petites surprises quand on n'a pas bien vérifié le coupon qu'on utilisait. Avant, le couponing, comment ça fonctionnait? C'était seulement chez les gens qui étaient adeptes du magasin ou membres fidèles. Donc, on retrouvait les gens, exemple les membres Costco qu'on voit aujourd'hui. Ces gens-là étaient membres et avaient accès à des coupons rabais. Par contre, les gens qui étaient pas membres de l'épicerie ou du supermarché avaient pas accès à ces coupons-là. Également, on voyait seulement les coupons par la poste. La manière électronique n'existait pas encore et les coupons se retrouvaient seulement sur les produits très dispendieux et raffinés. C'était une stratégie, dans le fond, pour inciter les gens à consommer et à s'inscrire ou à devenir adeptes du magasin. Aujourd'hui, la grande majorité des coupons qu'on trouve se trouvent sur Internet ou sur les grands sites Internet, comme couponing.ca, le grand site Internet de coupons. Et les produits, dans le fond, sur lesquels on peut appliquer un coupon rabais, ce sont souvent sur des produits à petit prix, généralement des produits de très basse qualité. On associe même aujourd'hui le couponing à une sorte de négociation. Donc, c'est vraiment le marchand, le vendeur qui décide qu'il veut pas donner son produit. Donc, aucun coupon de gratuité. Par contre, le consommateur veut pas payer le plein prix sur le coupon.
Ouais, donc ce qui là, c'est ça. Moi, quand j'étais justement à l'épicerie, il y avait une dame qui avait ses coupons, mais est-ce que c'est plus les femmes, les hommes? Est-ce que vous voyez que justement, il y a des groupes plus particuliers qui se portent au couponing?
Oui, bien sûr. C'est sûr que les femmes, on a tendance à vouloir magasiner davantage. On a tendance à vouloir aller directement à l'épicerie. On veut voir, toucher le produit. On veut vraiment une sensation qui est palpable. Donc, c'est sûr que pour ce qui est vraiment du couponing en épicerie, ça s'adresse généralement plus souvent aux femmes. Mais chez certains hommes, on voit dans le fond que c'est une consommation qui est plus sur Internet. Bien sûr, avec des coupons électroniques, par contre, la consommation est vraiment plus sur Internet. C'est quand même une stratégie qui s'adresse à tous, qui est très efficace afin d'économiser de l'argent.
Mais merci Marie-Claude, je crois qu'on en a tous beaucoup appris sur le couponing. Il y a quelques jours, je lisais un article sur le CD-ROM de Reka qui m'a assez ébranlée. C'était un article de The Island Packet de Kelly Davis du titre de Neither Average American nor Italian Can Afford American Dream du 18 mai 2016. En intérieur de celui-ci, Madame Davis explique qu'en réalité, le rêve américain n'est pas accessible pour la majorité des gens. C'était quand même intéressant de voir que ça prenait 1,31 fois le salaire d'un Américain pour y accéder, puis que les pays où c'était plus facile d'accéder au rêve américain, il y avait, c'était la Libye, ensuite la Tunisie. Mais je crois qu'on a quelqu'un qui est encore plus spécialisé pour en parler avec nous aujourd'hui. Donc, Florence!
Oui, bonjour!
Allô?
C'est très intéressant. C'est vrai que le rêve américain n'est pas disponible pour tout le monde et c'est justement pourquoi que c'est devenu un rêve américain. Alors, premièrement, le rêve américain, qu'est-ce que ça signifie? C'est une idée d'appréciation du peuple américain à ce que vous avez en tant que personne, vos réussites, votre prospérité, votre abondance. Par exemple, le meilleur exemple que je peux donner, est-ce que vous avez une maison, un auto, un travail qui a eu besoin de beaucoup d'études avant cela? C'est une fois que vous avez atteint ça, que vous avez une famille riche et en santé, vous avez réussi, vous êtes un rêve, vous êtes un Américain typique et tout le monde est fier de vous. Et c'est plutôt vrai parce que même dans ma vie à moi, mais dans la vie de mes collègues, de mes amis, quand que je veux rencontrer quelqu'un, juste pour on dit dans ma vie intime, je veux rencontrer un garçon et je vois qu'il n'a pas de travail ou bien il n'a pas d'auto, tout de suite je vais porter un jugement. Et c'est un jugement qui tire beaucoup du rêve américain parce que justement, ça vient du géant américain, les États-Unis. Mais l'important de mentionner que le rêve américain, c'est surtout défini comme un bonheur qui est devenu un bonheur matériel. Ce bonheur matériel, c'est vraiment comme le matérialisme. Fait que c'est devenu un bonheur matériel dans le sens que quand tu as de matériel, plus que tu as de richesse et de biens à la maison, plus que tu peux avoir l'occasion d'acheter des produits sans avoir besoin d'emprunter ou de t'empêcher de manger si tu veux avoir tes nouveaux souliers, ben c'est devenu un bonheur matériel. Alors, plus que tu as de choses, plus que tu es heureux. Mais le rêve américain n'était pas vraiment juste ça au début. C'est que le rêve américain vient aussi au départ d'un rêve plus spirituel, plus patriotique, qui était pour devenir les États-Unis comme un symbole économique, politique et militaire dans le monde.
Donc, l'American Dream, c'est quand même un mouvement d'une grande ampleur. En fait, l'American Dream tire ses origines d'où, de quand exactement?
C'est très intéressant comme question parce que, premièrement, le rêve américain n'est pas vraiment le même qu'il était, qu'il est aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui. Le rêve américain, au début, était propagé par les Britanniques pour la colonisation de l'Amérique. Alors, les Britanniques demandaient à des Britanniques, disant, est-ce que vous voulez coloniser l'Amérique, les États-Unis, et si vous allez coloniser là-bas, on va vous donner une terre, et vous pouvez aller avoir une terre, des agricoles, une famille, et vous allez devenir riche. Alors, le rêve américain, au début, était plus un rêve de, oh wow, je vais avoir une terre à moi, je vais pouvoir faire une nouvelle vie. Alors oui, au début, c'était plus dans la richesse, dans le sens que je vais pouvoir faire une terre et avoir de l'argent, mais plus que ça avançait, plus que les États-Unis voulaient devenir indépendants de sa métropole britannique. britannique. Alors, le rêve américain est surtout apparu à la Déclaration d'indépendance en 1776 avec Jeff Jefferson, qui était pour le rêve spirituel et patriotique des Américains en tant que devenir indépendants des Britanniques. Alors, d'où voilà vient le rêve américain. Mais le rêve américain matérialiste est venu plus à la révolution industrielle aux États-Unis au 19e siècle. C'est au 19e siècle, avec la révolution industrielle, que les Américains ont eu beaucoup d'usines qui se sont créées. L'industrialisation a eu une très très grande évolution, alors on a beaucoup fait plus de production, plus de produits, pour au final avoir plus de produits de vente, plus qu'on faisait de production, plus qu'on avait de l'argent, alors plus qu'on était riche. Et c'est devenu cette pensée positive de la richesse qui a créé ce rêve American Dream dans le contexte du matériel.
Parfait, ben je crois que ça va clore le sujet. C'est sûr que là, avec la montée de l'industrialisation en Chine, c'est à se demander si un jour on parlera pas justement du rêve en Chine, donc le rêve chinois. Donc c'est à se demander, suite à l'American Dream, si justement, on a parlé des publicités tout à l'heure, quelle était leur influence face à l'augmentation, mais la hausse du mouvement de l'American Dream? Les publicités, justement, c'est à se questionner, est-ce qu'il y a des réglementations?
Oui, en effet, mais par contre, il faut savoir que les réglementations, elles diffèrent selon les pays. Moi, je me suis vraiment concentrée sur les lois qu'il y a pour le Canada. Au Canada et au Québec, c'est le Code canadien des normes de la publicité qui est vraiment en place pour réglementer tout ça. C'est régi par les normes canadiennes de la publicité, aussi appelées NCP. Ce code-là a été publié en 1963. Donc, certaines des règles qui sont présentées, c'est premièrement que les publicités doivent pas aller contre la sécurité. Donc, mis à part quand c'est pour un but éducatif ou de prévention, ça doit pas présenter une indifférence à la sécurité. Par exemple, les pubs d'automobiles, tu peux pas présenter une pub où le gars qui conduit la voiture, il va faire n'importe quoi et il va faire un accident, sauf si la publicité en question a pour but de justement montrer les dangers de faire telle ou telle activité en voiture. Après, il y a aussi une réglementation pour les enfants. Les publicités pour enfants, c'est interdit au moins de 13 ans. C'est interdit d'exploiter leur crédulité, leur naïveté, leur innocence. Et donc, mis à part dans les magazines, les vitrines, les spectacles pour enfants ou les emballages, il n'y a pas le droit de faire des pubs directement pour les enfants.
Oui, c'est sûr qu'avec les enfants, il faut justement qu'il y ait des lois pour protéger ça. Est-ce qu'il y a des critères au niveau de la publicité pour dire qu'une publicité est autorisé un contenu pour les enfants, là?
Oui, effectivement, il y a trois critères qui définissent si une publicité est considérée comme étant pour les enfants ou pas. Le premier, c'est le destinataire, l'attrait qu'il peut y avoir pour les enfants. Enfin, si c'est quelque chose qui est considéré trop attrayant pour les enfants ou si le destinataire est directement l'enfant, la publicité sera interdite. Il y a un deuxième critère qui serait l'intérêt que ça peut susciter pour les enfants. Par exemple, si c'est une publicité où il y a un jouet, ce sera considéré comme étant une publicité pour les enfants et là, elle sera interdite. Il y a aussi un autre critère, c'est la période et le lieu de diffusion, donc le support sur lequel c'est fait. Par exemple, si il y a une publicité qui passe en même temps qu'une émission pour enfants, elle sera interdite si ça peut paraître trop attrayant pour les enfants, parce que il peut y avoir des risques de tort physique et psychologique pour les enfants de voir les publicités.
Si je peux me permettre 2 secondes, peut-être que nos auditeurs se le demandent, est-ce que justement, avant de pouvoir diffuser une publicité, ils doivent le faire approuver, ou est-ce que s'il y a une publicité qui respecte pas les normes, est-ce qu'il y a des pénalités? En fait, comment ça marche?
Il y a des pénalités. Les publicités qui sont considérées pour les enfants, il peut y avoir des pénalités entre 600 et 5 000 $. Et ça, c'est si c'est une personne physique, mais ça peut être ça peut aller entre 2 000 et 100 000 $ si c'est une entreprise qui fait la publicité ou une institution. Après, le code, il dit juste que la publicité doit être retirée si il y a une publicité qui est considérée pas correcte. Après, il y a aussi une réglementation pour les publicités aux mineurs. Donc, par exemple, on peut pas présenter de publicité d'alcool où la personne qui va acheter l'alcool peut être prise pour quelqu'un de moins de 18 ans. Donc ça peut pas être un adolescent, faut que la personne dans la pub soit clairement âgée de au moins 18 ans. Il y a aussi une réglementation par rapport aux descriptions et représentations inacceptables. Donc par exemple, dans les publicités, il ne peut pas y avoir de discrimination, de violence qui est valorisée. On ne peut pas non plus valoriser les comportements illégaux. On ne peut pas humilier ou discréditer ou dénigrer quelqu'un. Toute publicité doit être véridique, ça doit être clair, ça doit être exact. Par exemple, il ne peut pas y avoir de publicité mensongère. Les informations qui sont données dans une publicité doivent être très claires et précises et exactes. Quand il y a des publicités comparatives, l'entreprise qui fait une publicité ne peut pas injustement discréditer un de ses concurrents. Si elle donne des informations sur son concurrent, ça doit être des informations vraies. Elle n'a pas le droit de dénigrer pour le principe de dénigrer un concurrent. Quand il y a un témoignage dans une publicité, le témoignage doit être la réelle opinion de la personne. Ça ne peut pas juste être une personne payée pour dire telle ou telle chose sur le produit. Par rapport aux pubs qui imitent un peu les autres, c'est comme pour tout, le plagiat c'est interdit, donc si les textes ou les slogans d'autres publicités sont utilisés, il peut y avoir des problèmes avec le code. L'utilisation des superstitions, des frayeurs populaires est aussi interdite. On peut pas non plus utiliser l'appât et la substitution. Donc si un produit est en quantité limitée, ça doit être clairement mentionné dans la pub que c'est en quantité limitée. Il ne peut pas non plus y avoir de technique publicitaire déguisée, donc le but commercial d'une publicité doit être clairement exprimé aussi. Il doit y avoir une indication claire de prix, donc ça ne peut pas être trompeur, ça ne peut pas non plus être d'une autre monnaie, ou si c'est une autre monnaie, ça doit être mentionné. Les rabais doivent être mentionnés. Et le prix doit être juste et exact. S'il y a des garanties, il faut que ce soit mentionné aussi dans la publicité et la date, enfin la durée de la garantie. Et quand ce sont des déclarations professionnelles et scientifiques, ça doit être exact aussi.
C'est parfait, mais je crois que maintenant on se sent tous plus rassurés quant à notre inconscient à savoir qu'il y a justement des réglementations qui sont là pour protéger le contenu. Mais merci beaucoup Marie.
Bon, Heidi, j'avais une question pour toi.
Oui, Catherine.
Tout le monde parle de leur sujet, la consommation, mais je me demandais, je sais que tu as travaillé sur le marché noir, puis justement, on parlait des réglementations sur les publicités à la télévision, les choses comme ça, mais il y a aussi un autre sort de marché qui existe dans la société, qui échappe justement à ces réglementations-là, soit le marché noir. Mais est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus?
Oui, donc comme dans tout système ou organisation, il y a toujours des personnes qui suivent le fonctionnement choisi par l'autorité en place élue par la majorité, et il y a d'autres qui sont contre toute forme d'autorité. Cet écart aux normes socio-économiques se présente sous la forme d'une économie souterraine du nom de marché noir. Bien sûr, le marché noir s'englobe tous les marchés alternatifs qui sont pas encadrés par les institutions en place. Mais moi, je vais pas m'intéresser nécessairement à vous parler de toutes les dimensions que peuvent prendre le marché noir, comme la drogue, le tabac illégal, tout ça. On passerait encore la journée à en parler. Moi, je veux plutôt qu'on s'intéresse à vraiment tout ce qui on pense pas nécessairement quand le mot marché noir est évoqué. En premier, quelles sont les limites du marché noir? Il y a en premier le facteur criminel de la question, qui amplifie la difficulté à vraiment évaluer l'ampleur de la situation. Lorsque le sujet étudié touche à un caractère illégal, les personnes qui sont impliquées dans la problématique se doivent de respecter ce qu'on appelle la fameuse loi du silence. Vu la discrétion que nécessite la poursuite d'une telle entreprise, bien sûr. L'implication du gouvernement est vraiment un grand facteur au niveau du marché noir. En effet, l'intervention en matière de fiscalité, de transferts sociaux, de réglementation, a amené les gens à devoir s'adapter. Dans cette perspective, ils ont dû trouver un moyen de conserver leur niveau de vie tout en répondant aux exigences de l'État. Ensuite, il y a aussi la corruption qui vient un peu influencer la hausse du marché noir. En fait, la corruption gouvernementale. Les administrateurs, que ce soit municipaux, fédéraux, nationaux, corrompus, viennent limiter les mesures pénales ou répressives face à ce genre d'action en plus de leur pouvoir d'influence. Il y a aussi tous ceux qui travaillent dans des milieux bancaires ou législatifs qui peuvent faciliter, par exemple, le blanchissement d'argent issu du marché noir et le rendre ici rentable. Faut comprendre que la perception que les gens ont de la notion de gouvernement, L'orientation politique du gouvernement au pouvoir par rapport à celui qu'ils auraient voulu voir au pouvoir va aussi renforcer la pratique des différents types d'économies du marché noir. Parce que si l'individu a l'impression que le gouvernement n'utilise pas les fonds publics à bon escient, pourquoi le donnerait-il son argent? Il y a aussi le chômage qui a augmenté ces dernières années suite aux nombreuses crises économiques. Il y a un très grand nombre de chômeurs qui réussissent pas à obtenir des indemnisations. Donc, que faire alors? Il y a aussi le travail au noir qui peut être une sorte de porte de secours. Il y a aussi les allocations familiales qui sont là justement pour balancer les inégalités. Et malheureusement, les allocations familiales sont pas nécessairement suffisantes. Donc, les gens vont devoir trouver des sources de revenus autres. Sinon, comme je disais, il est en hausse, mais il est grandement sous-estimé. Parce que bien sûr, les personnes qui vont faire des pratiques illégales, ça va pas nécessairement sauter aux yeux parce qu'ils vont chercher à utiliser des moyens de production qui sont subtils. La question, c'est pourquoi est-ce aussi difficile à démasquer et à enrayer? C'est à cause d'un concept du nom d'interconnectivité. En fait, c'est que la consommation s'est beaucoup diversifiée au cours des dernières années, ce qu'on appelle le concept de polyconsommation. Donc, les contrebandiers ont dû développer un marché qui est international pour fournir une plus grande diversité de produits. Donc, quand on a un grand réseau, c'est difficile d'aller chercher la tête, parce que la plupart vont faire affaire avec des petits réseaux. Donc, les policiers qui vont tenter de contrevenir à la contrebande vont souvent atteindre les réseaux secondaires plutôt que la tête. Sinon, c'est sûr que c'est un grand biais au niveau de l'économie pour les différents services, tout ça. Savoir qui a vraiment besoin d'un service ou simplement pour connaître la vraie situation économique. Certains économistes remettent en question d'ailleurs qu'il y ait vraiment eu une récession en 1970 en mentionnant que, justement, les revenus du marché noir n'avaient pas été pris en considération. Donc, il faut comprendre que le marché noir, c'est pas nécessairement quelque chose qui est négatif. Ça permet aussi de faire passer un message au gouvernement que, justement, les mesures qui sont en place sont pas appropriées. Par exemple, et ça peut être aussi un moyen de pression, après que 60% des consommateurs de cigarettes aient opté pour le marché noir, le gouvernement québécois n'a eu d'autre choix que de réduire les taxes sur les cigarettes qu'il venait d'augmenter. Donc on peut voir que le marché noir, c'est aussi un excellent outil pour les citoyens. L'été passé, j'ai travaillé en Ontario pendant 2 mois et quand je suis revenue à Saint-Jérôme et que je suis allée magasiner, c'est là que j'ai réalisé à quel point ça avait changé. Les boutiques n'étaient plus les mêmes, donc il y a vraiment un grand roulement des types de boutiques qu'on peut remarquer justement dans nos carrefours du Nord. Donc c'est à se demander, quand on regarde ça, c'était quoi exactement les premiers centres d'achat? À quoi ils pouvaient ressembler? Quand ils apparurent? Des choses comme ça. Et nous avons justement Katrina qui a travailler sur les centres d'achat. Pourrais-tu nous en parler?
Bien sûr. Moi, j'ai fait une critique historique sur un article que j'avais trouvé dans l'Écho du Nord, publié le 24 juillet 1957, sur l'arrivée du centre d'achat et justement tous les débats que ça allait apporter dans la société de Saint-Jérôme. Le titre, ça, c'était « Les marchands de la ville versus le centre d'achat ». Plusieurs marchands de la ville, les marchands très locaux, se questionnaient par rapport à la compétition qui était pour s'installer quand le centre d'achat était pour s'instaurer aux limites extérieures de la ville de Saint-Jérôme. Plusieurs problèmes s'opposaient dans ce débat-là, dont la variation des taxes. Vu le centre d'achat n'était pas dans la ville de Saint-Jérôme, mais aux limites extérieures de la ville de Saint-Jérôme, dans sa cité de 1957, les variations de taxes étaient fort importantes. Dans la ville, les locaux devaient charger 5% de taxes sur tous les produits, tandis que le centre d'achat pouvait charger seulement que 2%. C'était principalement dû aux réglementations qui n'étaient pas les mêmes par rapport au centre d'achat de Saint-Jérôme et la limite qui était entre les deux municipalités. La limite n'était pas aussi réglementée que la ville en tant que telle. Cet aspect-là influençait aussi les heures d'ouverture. Les marchands locaux devaient fermer à partir de telle heure, qui était quand même assez tôt, je crois, c'était 6h30, puis devaient ouvrir pas avant 6h, tout dépendant du marché.
Puis les centres d'achat, eux?
Les centres d'achat, eux, pouvaient rester ouverts jusqu'à 10-11h le soir, ce qui pouvait augmenter leur vente, parce que les gens finissaient de travailler à 6 heures. C'était beaucoup trop pressant de devoir aller vers les marchands locaux qui fermaient bientôt, qui pouvaient diminuer leur vente. Le troisième aspect qui était vraiment majeur, c'était le stationnement. Dans la ville, les endroits de stationnement n'étaient pas fournis quand t'achetais un local pour les marchands. Ils devaient se procurer eux-mêmes les stationnements, ils devaient débourser de l'argent pour faire sûr que leur clientèle en avait un. Puis en plus, l'espace manquait. Tandis que pour le stationnement du centre d'achat, il y avait plus de 500 places disponibles, ce qui permettait aux consommateurs d'être beaucoup plus favorisés à aller voir le centre d'achat. Tant qu'à aller dans les marchands locaux, ils devaient trouver des stationnements partout dans la ville.
Mais est-ce que justement, c'était pas loin de la ville, les centres d'achat, là, pour trouver un territoire assez grand pour accueillir tous ces magasins-là et cet espace de stationnement?
C'était pas si loin, je crois que c'était 5-10 minutes. C'est juste que dans la ville, on pouvait se rendre. T'sais, c'était beaucoup plus proche, c'était très local. En 1950, Saint-Jérôme n'était pas aussi grand qu'en ce moment. Il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas rien de vraiment majeur. Ce qui faisait que c'était beaucoup plus familier d'aller dans les marchés locaux. T'sais, on connaissait les personnes, tout ça. Mais en fin de compte, c'était beaucoup plus avantageux monétairement d'aller dans les centres d'achat. Ça prenait moins de temps malgré la distance qui était un peu plus loin. Malgré tout, l'article dénonce vraiment le débat qu'il y a eu à cette époque-là avec l'arrivée du centre d'achat. C'est pas un petit marché local, c'est quand même un grand marché, c'était un Dominion. Il y avait beaucoup de magasins dedans. C'était vraiment quelque chose de nouveau pour les régions proches d'ici, surtout de la cité Saint-Jérôme.
Est-ce que tu sais, il y en avait combien à peu près de magasins ou
je pourrais environ? Pas dire exactement le nombre de magasins. Je savais que c'était le premier centre d'achat qui s'installait vraiment aussi près de Saint-Jérôme.
Moi, je me souviens que mon arrière-grand-père, il y avait un magasin dans un petit village et puis il y a un centre d'achat qui a ouvert dans son village. Et puis, son magasin était quand même très populaire. Le centre d'achat l'a approché pour qu'il rentre dans son centre d'achat. Et puis, il a remarqué que tous les autres petits centres d'achat, magasins à côté de lui, qui n'avaient pas de popularité autant que lui, mais eux, ils vont perdre de l'argent puis ils ont pratiquement tout fait faillite. Fait que dans le fond, c'est fou de voir que les magasins importants étaient tous dans le centre d'achat. Le centre d'achat a pris la place de tous les petits magasins locaux.
Même le centre d'achat qui s'est installé en 1957, c'était vraiment juste de la nouveauté. Ils voulaient pas incorporer les marchés locaux comme sûrement ton grand-père. C'était plus, ils voulaient apporter quelque chose de nouveau à la société, faire découvrir les nouveaux magasins qui étaient in aux États-Unis ou les choses comme ça. Puis, je pense que c'est vraiment ça qui a fait que ça a été aussi populaire. Heureusement, les dangers pour les marchés locaux n'ont pas été si grands parce que les gens aimaient vraiment la proximité qu'il y avait avec les marchands, le fait qu'ils les connaissaient, qu'ils connaissaient déjà les rabais. Puis, c'est dur pour les gens de changer de routine, de vraiment aller vers quelque chose d'aussi nouveau. Mais, bien évidemment, on peut s'en rendre compte aujourd'hui que les centres d'achat ont vraiment pris de l'ampleur dans la société. Puis, ils jouent vraiment une place importante dans la consommation, dont la société de consommation que nous sommes aujourd'hui.
Ben, merci beaucoup, Catherine. Entre ma maison et le cégep où j'étudie, il y a ce magasin de véhicules d'occasion devant lequel je passe régulièrement. On peut pas passer devant sans s'émerveiller devant les couleurs et les textures qui caractérisent chacune de ces œuvres de l'industrie automobile. C'est quand même drôle de voir comment la peinture et la forme des automobiles ont varié au fil du temps. D'ailleurs, l'automobile est tellement au centre de notre mode de vie qu'il nous arrive parfois d'oublier qu'elle n'a pas toujours existé. J'imagine mes arrière-grands-parents devoir se promener à cheval à travers des tempêtes de neige comme nous avons eu cette année. Il y a aussi le prix des voitures qui a varié et tout ça. Puis, nous avons Marie-Claude aujourd'hui pour nous parler justement de l'évolution un peu de l'automobile.
Oui, effectivement. Donc, je vais parler aujourd'hui d'un article qui a été publié en 1952. En fait, c'est pas un article, c'est plus une publicité concernant les voitures. Donc oui, effectivement, le prix des voitures, il a très fluctué, notamment en 1960 et 1990. On peut également constater que d'autres produits de consommation, tels les vêtements, la nourriture et l'énergie, qui ont vécu une grande fluctuation. Par contre, pour ce qui est des produits durables, il y a eu peu de fluctuations durant ces années-là. Je vais aujourd'hui parler d'une publicité que j'ai vue dans l'Avenir du Nord. Cette publicité-là fut publiée en mai 1952. La publicité s'appelait Auto-Aubaine. Le but premier de la publicité était de vendre le plus d'auto possible. Sur la publicité, on pouvait voir que les prix variaient de 575$ à 2250$. C'est aujourd'hui le prix qu'on paye pour une voiture usagée.
Justement, c'est ça, le dollar n'avait pas exactement la même valeur dans ces années-là qu'aujourd'hui. Donc, ça représentait quoi, justement, 575$?
C'est sûr que c'était le prix d'une voiture vieille d'un an. Donc les voitures nouvelles, c'est sûr que c'était les prix les plus chers. Donc le 2250$, c'était la voiture récente de l'année. Par contre, pour une petite Chevrolet 4 portes berline, c'est le prix de 575$. Aujourd'hui, pour 575$, on trouve une voiture très vieille, d'environ moins de 10 à 15 ans, sans moteur.
J'ai une question pour toi, Marc-Claude. Vous parlez beaucoup de la valeur de l'automobile à l'époque comparativement à aujourd'hui, mais la valeur de la monnaie fluctue aussi au travers des époques. Est-ce que vous savez à peu près combien elle se situe?
Malheureusement, j'ai pas étudié la question. C'est une question qui est vraiment intéressante.
Mais par contre, moi, je peux dire un point là-dessus. J'ai pas vraiment étudié sur le fait de la monnaie puis l'évolution de la monnaie, mais je sais que dans les années 60, avoir un salaire de 15 000 $ par année valait environ à 80 000 $ aujourd'hui en 2016. Alors, si un auto dans ce temps-là valait 5 000 $, aujourd'hui vaudrait peut-être 35 000 $. Alors, avoir un auto de 5 000 $ dans les années 60 vaudrait aujourd'hui d'avoir un bel auto sport de 35 000 $.
Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué de ta publicité?
Oui, ben en fait, je trouvais que le titre était très, très accrocheur. Dans ces années-là, les journaux étaient assez grandes, les pages étaient très, très grosses, et le titre, dans le fond, il était en caractère gras, écrit très gros, à comparer aux autres publicités qui étaient un petit peu autour, en très petit caractère, sans photo, ni cadre. Par contre, cette publicité-là, comme j'ai dit, le titre était en gras. Il y avait le numéro de téléphone également et l'adresse pour que les gens puissent les rejoindre très facilement, que ça soit très, très accessible.
Justement, dans les publicités, le fait de vraiment attraper l'œil, là, que ça soit vraiment gros puis bold, pour utiliser le terme anglais, c'est vraiment très typique de l'après-guerre. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu voir au travers de mes études.
Oui, effectivement. En plus, à ce moment-là, c'est sûr que la qualité du papier, les images n'étaient pas en couleur. Donc, pour une publicité de cette époque-là, c'était vraiment impressionnant la façon qu'ils ont eu pour accrocher le public.
Moi aussi j'ai eu un article sur l'après-guerre. Par contre, moi c'était pas une publicité, c'était un article écrit. Et en fait, il s'intitulait « Les Canadiens ont dépensé 10 milliards de dollars en 1948 ». Je le trouvais intéressant parce que on voit vraiment les différences de consommation qu'il y a entre aujourd'hui et l'après-guerre. Donc cet article-là, il était paru le 1er juillet 1949. Dans l'Écho du Nord, donc un journal qui concerne principalement Saint-Jérôme et les Laurentides. Ensuite, il faut savoir que en 1948, c'est encore l'après-guerre, donc les gens se remettent tranquillement du contexte socio-historique et culturel. Et du coup, les façons de dépenser n'étaient pas forcément les mêmes que ce qu'on peut avoir aujourd'hui et que ce qu'il y avait avant.
Mais justement, à propos de ça, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces différences-là?
Oui, justement, par exemple, les Canadiens, à cette époque-là, dépensaient 50% de plus de dollars que en 1938, donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Et durant la guerre, il y a eu beaucoup moins de dépenses, justement, entre autres, parce qu'il n'y avait pas assez de produits sur le marché, parce que c'était en période de rationnement, parce que généralement, les guerres, il y a moins de choses sur le marché, parce que tout est mis en pause un peu pour la guerre.
Mais il y a aussi un marché justement relié à la situation de guerre, là, toute la production de l'armement, les rations aux soldats, tout ça, mais il y a quand même une augmentation du niveau économique, là.
Oui, effectivement, il y a quand même l'augmentation de tout ce qui est de l'économie militaire, mais l'article, il était plus concentré sur la consommation de tous les jours qu'on peut avoir, par exemple, aujourd'hui, de nourriture, qui était quand même beaucoup plus rationnée, parce que justement, fallait économiser pour s'assurer que tout le monde ait suffisamment à manger. Donc, il y avait des rations beaucoup plus petites que ce qu'il peut y avoir en temps de paix. Et en plus de ça, les citoyens généralement ont tendance à beaucoup moins dépenser en temps de guerre, justement parce qu'ils préfèrent économiser en cas de besoin, si jamais il y a des choses. En plus de ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après la guerre, les gens avaient tendance à dépenser même beaucoup plus que leurs revenus. Ils ont contracté beaucoup de crédits à cette époque-là. C'était très encouragé, surtout aux États-Unis où les gens dépensaient à crédit. Et donc en fait, cet article, il met vraiment en évidence le lien entre le contexte socio-historique d'un pays et la façon de consommer des gens. Donc par exemple, pendant une guerre ou une crise, il y a beaucoup moins de consommation que pendant une période de croissance économique ou de stabilité politique.
Je voulais savoir, Marie, toi, qu'est-ce qui t'avait marqué dans ton article?
Ben en fait, ce qui m'a un peu choquée, c'est qu'il y a le mot consommateur qui est vraiment très souvent utilisé dans cet article. La population est décrite assez souvent comme un consommateur. Et en fait, c'est un peu une preuve qu'à cette époque-là, déjà, le citoyen commençait à être considéré comme un acheteur plus que juste comme un citoyen.
Mais c'est parfait, mais merci beaucoup Marie.
De rien.
J'ai un petit jeu à vous proposer rapidement, là. En fait, c'est très simple. Je vous dis un début d'un slogan, puis vous me dites la suite. C'est bon pour vous?
Ouais!
Moi qui s'y connais en matière de slogan. Ah ah!
Family Prix.
Et un point pour Florence. Chez Jean Coutu, on trouve de tout.
Même un ami.
Un point pour Marc-Claude. Just.
Do it.
Un point pour Marie. Subway, manger.
Frais.
Ici, c'est...
Pepsi.
On a une pro du slogan ici. Donc, en fait, juste par ce petit jeu-là, c'était pour démontrer que les slogans, c'est quelque chose qui marque... la mémoire populaire. Donc, pour ce qui est des slogans qu'on retrouve sur les affiches, ça marque, puis on a Florence qui est ici justement pour en parler.
Oui, mais je vais pas parler de slogans aussi populaires qu'aujourd'hui. Je vais parler plus de slogans que de petits magasins locaux dans les années, comme Marie, dans les années 1949, qui vient du le journal Le Nord, entre septembre et décembre, en plein temps froid. Alors, mon premier magasin va être Michel Tamilia, un tailleur fashionable. Alors déjà en partant, il y a le mot fashionable dans le nom du magasin qui est très très spécial parce que déjà au Québec dans ce temps-là, l'anglais n'était pas très populaire.
Ouais, c'est ça justement pour nos auditeurs qui se connaissent pas nécessairement en anglais, la traduction. Ouais.
Oui, mais dans le fond, être fashionable, c'est être à la mode. Alors, le tailleur à la mode dans les temps de 1949 pour la région de Saint-Jérôme. Et puis, c'est fascinant de voir la manière qu'utilise le vendeur pour amener sa clientèle vers son magasin. Alors, vu que c'est un tailleur, ça vise surtout les hommes. Alors, on va voir un homme qui prend environ la moitié de l'annonce. Et puis, qu'est-ce qu'on voit de l'homme? C'est vraiment un dessin d'un homme mature qui est bien habillé. Il semble très propre, très respecté. Alors, il représente à cette époque l'homme idéal qu'on voudrait tous ressembler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut penser quand on regarde l'affiche et wow, je veux devenir cet homme, je veux acheter ce tailleur et devenir aussi respecté et propre que lui. Et qu'est-ce qui est écrit sur le slogan? C'est écrit « La légèreté d'un souffle et la chaleur d'un compliment ». Cette phrase est vendeuse, mais elle est très exagérée avec des termes qui font amener le client à penser que porter ce veston ou ce paletot est un bonheur de confort et qu'il faut le porter, qu'il va nous apporter une chaleur et une légèreté digne d'un compliment. En deuxième lieu, j'ai la machine à laver Connor Thermor, qui est une machine à laver qui est dite la plus rapide du temps. Puis l'annonce touche particulièrement la femme. Bien entendu, dans cette époque, en 1949, c'était une époque qui était forgée dans le patriarcal. Alors, la femme était à la maison à s'occuper des enfants et des tâches ménagères. Alors, lorsqu'il y a une annonce sur une machine à laver, eh bien, on touche direct la femme. Déjà, sur l'image, qu'est-ce qu'on voit? C'est une femme heureuse, bien habillée, avec le grand, grand sourire, qui est en train de faire son lavage avec la Connor Thermor. Sur l'affiche, qu'est-ce qu'on peut? On peut retrouver, c'est des slogans comme vitesse phénoménale. On peut imaginer la femme avec les quatre enfants qui peut faire autre chose que juste le lavage, parce que la Connor, elle est plus rapide et plus efficace. C'est aussi écrit que la femme va être comblée et puis que finalement la femme va devenir la femme fatale du temps parce qu'elle a la fameuse laveuse Connor.
Juste pour être sûr, là, à l'époque de l'archive, est-ce que justement la laveuse c'était quelque chose qui était populaire auprès des ménages ou...
Ben j'imagine parce qu'elle elle s'affichait en tant que la meilleure laveuse de l'époque.
Donc c'est déjà bien installé dans la société à cette époque-là.
J'imagine, j'ai pas vu d'autres annonces sur d'autres machines à laver, alors j'imagine que celle-ci était quand même très vendeuse. Et puis, elle prenait quand même beaucoup de place dans le journal, c'est qui paraît dans le journal, parce que quand tu vas avoir plus que tu as de la place, plus que tu appelles chien, plus que tu appelles cher, plus que tu es populaire. Alors, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'autant que pour l'homme que pour la femme, le magasin que vous approchez, ils vont toucher vos intérêts personnels, qui est de devenir un idole ou un symbole de la famille ou de la société. Un autre point qui est plus pour la famille au complet, qui est la Kaiser 1949, qui est une automobile. Comme ma collègue a parlé tout à l'heure, une automobile, je ne connais pas son prix, qui n'est n'était pas écrit sur l'annonce, mais c'est le garage marin qui exagérait beaucoup les caractéristiques de la voiture pour dire à quel point qu'elle était parfaite. Elle accentue ses qualités pour en mettre plein la vue. La voiture serait un miracle sur quatre roues, dit-elle sur l'annonce, ce qui semble bien irréaliste parce que, premièrement, ce n'était pas la seule voiture, et puis c'est un garage qui la vend, alors elle ne devait pas être si miraculeuse que ça. Elle devait être même en mauvais état avant de se rendre à ce garage. Et puis, il est intéressant de dire que le garage tient à dire que l'auto est très bonne pour la famille, et puis qu'il y a beaucoup de sièges, elle est rapide, elle est chaleureuse, elle est confortable. Mais par contre, elle ne parle que des choses intéressantes et amusantes. Elle ne parle pas du tout des codes de sécurité, si elle est vraiment confortable au point d'être en sécurité dedans, ou bien pour les codes de la route, si elle a tout ce qu'il faut pour être responsable et légal.
Donc c'était très intéressant de m'apprendre justement c'est les publicités qu'on peut retrouver dans les journaux locaux. Ça nous amène à demander qu'est-ce qui est le plus vendeur pour... Est-ce que certains types de produits, c'est mieux dans des journaux ou d'autres à la télévision? Merci beaucoup, Florence!
En continuant sur les annonces que j'ai vues dans les journaux, premièrement, tout ce qui est vêtements et automobiles étaient les plus populaires, mais la seconde qui était la plus populaire, qui était étrangement et volontairement à côté de toutes les annonces de marché, étaient les annonces de crédit. Alors, les personnes mettaient des annonces disant « Venez chez moi, je vais vous prêter plein d'argent et vous aurez aucun problème avec ça, vous pourrez même emprunter et rien payer pendant très très longtemps. » Mais je n'ai pas étudié sur le sujet et je me demandais, je sais que toi, tu as étudié sur le sujet, Heidi, est-ce que tu pourrais nous en parler?
Oui, juste pour être sûre, ce que tu me parlais, est-ce que c'était des personnes qui proposaient un crédit à un autre citoyen ou...
C'était une banque.
Donc comme moi, dans l'archive que j'ai étudiée de la Banque nationale du Canada, c'est ce qu'on s'intéresse, au crédit que la banque peut offrir aux particuliers. D'ailleurs, la première banque de la Banque nationale du Canada a été aménagée en 1859 par une majorité de francophones. C'était à une époque où ils tentaient justement de reprendre le contrôle de leur économie, qui était majoritairement à cette époque-là aux mains des Anglais. Bien sûr, au fil du temps, la Banque nationale du Canada a pris de l'expansion, elle a ouvert de nouvelles succursales. Ensuite, avec les nombreuses récessions des années 20, des années 30, on observe que le crédit va beaucoup évoluer avant d'en arriver à la première carte de crédit telle qu'on connaît aujourd'hui. Un peu de contexte pour le crédit. Ce qu'on sait, c'est que l'archive, et on dirait qu'on s'est donné le mot aujourd'hui, c'est encore de l'après-guerre. À cette époque-là, il y a eu des lois sur les allocations familiales afin de justement encourager les familles à faire plus d'enfants, jusqu'en arriver au fameux baby boom, où ce que les dépenses des ménages ont grandement augmenté. Et pour la plupart, comme on a dit tout à l'heure, au-dessus de leurs moyens. Puis avec l'American Way of Life dont on nous a parlé. Puis bien sûr, il y a eu la grande noirceur que justement, il y a eu les ménages avaient des problèmes financiers et souvent il y avait de la difficulté à financer leurs dépenses en fait. Donc ils se sont tournés vers les banques. Juste pour vous situer un peu dans le document d'archives, c'est de l'Écho du Nord, tout comme Marie. Puis moi c'était de janvier 1950. Comme tout autre journal local, il vise à informer les citoyens des différentes activités et actualités qui se déroulent dans leur municipalité. Donc ici, on cherchait vraiment à viser les Canadiens français de la ville de Saint-Jérôme et des entourages à justement se tourner vers le crédit. Tandis que les anglophones, eux, étaient plutôt des grandes villes, donc on peut déduire que l'article s'adressait pas à eux. Les seuls éléments de contenu qu'on peut vraiment trouver dans cet article-là, c'est l'inscrito « Vous rappelez-vous ». Donc on peut voir qu'il y a déjà une première tentative dans les années précédentes de la part des banques d'encourager les gens à utiliser le crédit. La date de la fondation de la banque des Laurentides était en 1817, donc ça fait quand même un petit bout que la banque est intégrée au niveau de la municipalité, mais on voit qu'elle a encore besoin d'aller chercher une clientèle. Sinon, ce que la source nous apprend explicitement, c'est que la plupart du temps, c'était les femmes qui s'occupaient de la gestion monétaire dans les ménages, tandis que l'homme, lui, s'occupait d'apporter le salaire à la maison. Sinon, on peut remarquer que la vision était beaucoup plus sur ce qu'on appelle l'achat, puis le paiement à la livraison dans les marchés locaux, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens avaient justement une petite peur à aller vers les banques parce qu'il y avait une dimension légale à toutes ces transactions-là. Donc, ce qu'on peut comprendre avec cette publicité-là, c'est que la banque tente de diminuer le malaise que certains peuvent avoir à aller chercher de l'aide auprès des banques. On peut aussi se questionner quant aux intentions des rédacteurs, parce que dans le contexte économique de l'époque, acheter des produits avec de l'argent qu'ils n'ont pas encore n'était pas la situation nécessairement la plus avantageuse pour le demandeur. Il y avait aussi le passage disant « les prêts seront remboursés à échéance, ce n'est que légitime ». Ça fait appel à un concept de légitimité. Donc, par l'achat de cette appellation, on peut discerner une implication légale des transactions, comme j'ai énoncé, et on peut ainsi comprendre qu'en cas de manquement de paiement, des pénalités pouvaient s'appliquer. Mais c'est quand même drôle que dans cet article-là, qui est la publicité des banques, on ne vient pas parler des conséquences possibles. En fait, on ne parle pas des détails des dites transactions entre la banque et le particulier, mais simplement que le crédit, c'est quelque chose qui peut aider.
J'ai une question pour vous. Est-ce que les crédits restent semblables aux méthodes de crédit qu'on a aujourd'hui? Donc, on emprunte de l'argent, on rembourse, est-ce qu'il y a des... Est-ce que c'est le même processus? De...
Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment le même principe. Les gens sont dans la banque, demandent le crédit. Ce qu'on ne mentionne pas, comme je disais, c'est les détails de l'entente entre le particulier et la banque, à savoir le temps qui est laissé, puis les types de pénalités qui peuvent s'appliquer.
Est-ce qu'il y a encore des intérêts, des choses qui font qu'on veut rembourser plus rapidement?
Dans le sens que si on dit, si tu rembourses plus tôt, tu auras moins d'intérêt, à la fin tu vas payer moins cher.
C'est sûr que dans mon archive, je ne parlais pas nécessairement de chiffres, mais j'imagine qu'à cette époque-là, ça devait être au début du crédit où on vraiment cherchait à démontrer les bienfaits. On n'était pas encore à se concentrer sur toutes les modalités de remboursement.
Mais ça m'étonnerait que dans ce temps-là, il y ait des intérêts, parce que c'était dans l'époque des Trente Glorieuses. Alors, l'argent, l'économie de l'Amérique du Nord allait tellement bien que je pense qu'ils pouvaient juste prêter de l'argent sans rien dire, jusqu'à temps de se faire ramasser plus tard vers la crise économique.
Chers auditeurs, c'est malheureusement déjà bientôt la fin pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que nous avons réussi à partager notre passion pour ce sujet. Cette thématique est si complète et englobante que nous n'avons pas pu aborder toutes les dimensions de la consommation que nous aurions voulu. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur le sujet, je vous invite à en apprendre davantage sur les aspects relatifs à la consommation, comme le coût social, c'est-à-dire l'impact humain, la déforestation, les opinions des différents partis politiques, l'implication de l'image de soi, les normes de l'élite, l'illusion de besoin, la nécessité de travailler plus pour consommer plus, etc. Bien sûr, c'est la fin pour nous, mais nous vous invitons à laisser des commentaires sur notre podcast sur le sujet, des questions, des informations complémentaires sur la consommation. C'est aussi une excellente occasion de faire une petite introspection sur vos habitudes de consommation et vous demander si vos habitudes correspondent vraiment à vos besoins, vos désirs, vos buts, etc. Pour vous diriger sur le chemin de la réflexion, je vous partage une citation de Jean Baudrillard. La société de consommation a besoin de ces objets pour être, et plus précisément, elle a besoin de les détruire. Et n'oubliez pas, comme l'a dit Alfred Sauvy, le but de l'économie n'est pas le travail, mais la consommation. Alors n'oubliez pas de jouir de la vie, ne faites pas comme certaines personnes qui amassent de l'argent et travaillent toute leur vie et meurent sans avoir pu le temps d'en profiter. Je vous dis donc, profitez de chaque instant, car nul ne sait quand sera votre dernier. Ainsi consommer, mais avec modération, bien sûr. Avant de vous laisser, je tiens à remercier mes collègues avec qui j'ai eu l'opportunité de partager l'antenne, Florence Gendron-Julien, Katrina Marie et Marie-Claude Desjardins. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. C'était Heidi pour le podcast du CSH.